Métropolez-vous.
Métropolez-vous.
Métropole et vous.
Métropolez-vous, une émission présentée par Éric Dupri.
Bonjour, bienvenue à tous à l'écoute de Métropolez-vous. La crise sanitaire a eu aussi des conséquences sur notre vie sociale et sur le plan social en général. On n'en mesure pas tout à fait encore l'ampleur, mais on sait que beaucoup de nos concitoyens se retrouvent en situation difficile, voire en situation d'exclusion pour diverses raisons. Perte d'emploi, baisse de revenus, fermeture de leur commerce, isolement et état dépressif. Les causes ne manquent pas, hélas. Un constat inquiétant auquel la métropole toulousaine n'échappe pas. Les pouvoirs et les institutions publiques sont confrontés au désarroi de bon nombre de leurs administrés et doivent y apporter des réponses. C'est souvent vers les collectivités que l'on se tourne en dernier recours pour agir et trouver des solutions à des situations parfois désespérées. Quelles sont les mesures et les dispositifs mis en œuvre au niveau métropolitain pour repérer et aider ceux qui doivent faire face à la pauvreté, à la précarité et à l'exclusion? C'est ce que nous allons voir au cours de ce numéro consacré aux actions que mène Toulouse Métropole en faveur de la cohésion sociale et de l'inclusion. Et nous allons pouvoir faire un état des lieux et découvrir les actions métropolitaines dans ces deux domaines qui ont partie liée, bien sûr, avec celle qui occupe le poste de vice-présidente de Toulouse Métropole, chargée de la cohésion sociale et de l'inclusion. Julie Escudier, bonjour et merci d'être présente au rendez-vous pour les auditeurs de cette émission. Vous êtes également avocate et conseillère municipale déléguée à la mairie de Toulouse. Alors si je vous demande de préciser ce que recouvrent pour vous et à la métropole les expressions cohésion sociale et inclusion, que pouvez-vous me répondre? Je pense notamment à l'inclusion, une nouvelle mission par rapport au mandat précédent.
Bonjour d'abord. Pour répondre donc à votre question et à la question de la cohésion sociale et de l'inclusion, effectivement, la volonté métropolitaine avec l'ensemble des 37 communes est bien d'avoir une dimension et une politique commune qui a pour objectif de favoriser l'inclusion des individus. C'est-à-dire la question étant comment on arrive à faire en sorte de créer, de constituer une métropole pour ne pas laisser de côté les personnes, quelles qu'elles soient. Comment, au fond, on arrive à penser, à se mettre en cohérence, à œuvrer ensemble pour arriver à faire en sorte que des gens ne restent pas sur le bord de la route. Voilà, en quelques mots, l'objectif que la métropole souhaite atteindre.
Aider les personnes qui sont aujourd'hui en marge de la société, en situation d'exclusion, quelle qu'en soit la raison, pour qu'elles puissent s'inclure à la société, entre autres à la société métropolitaine. Donc vous menez des actions et vous mettez des moyens en place pour ce faire. Pourquoi est-ce que c'est devenu une mission à part entière, nouvelle, de ce mandat, l'inclusion? Il y avait une urgence à traiter?
Alors, bien évidemment, il y a une urgence à traiter, une urgence qui s'est renforcée d'ailleurs en raison de la crise, puisque l'objectif, c'est bien de s'interroger pour savoir comment on arrive à agir au fond et à mettre en œuvre des dispositifs en amont aussi de la crise que nous vivons. C'est-à-dire, il y a tout le volet et le pan traditionnel de l'inclusion, et à la fois, il y a l'adaptation que l'on doit en avoir pour essayer de faire en sorte que les gens qui vont tomber dans des situations compliquées, ou tout au moins qui risquent de tomber dans des situations compliquées de vie, puisse être aidé en amont de tomber trop bas, si je peux me permettre. Donc, c'est un peu ce double volet qui est recherché. Donc, il y a effectivement toute une stratégie métropolitaine qui était mise en œuvre avant la crise et il y a un plan précarité spécifique en parallèle du plan de relance économique qui a été mis en œuvre à la métropole, qui a consacré donc 17,5 millions d'euros de façon à pouvoir justement agir pour pouvoir avoir des mesures spécifiques dédiées au-delà des actions que nous menions préalablement.
Une fois qu'on a précisé tout ça, on va essayer de faire un petit état des lieux des différents types d'exclusion qu'on peut rencontrer dans la métropole toulousaine. Quelles sont les formes d'exclusion les plus courantes de nos jours? On pense bien sûr à la pauvreté en premier, au mal logement, mais il y en a d'autres.
Alors, bien sûr, alors la pauvreté est bien évidemment la première cause contre laquelle nous devons agir. Vous savez, si on prend alors les chiffres qui sont des chiffres communiqués de façon officielle, sont des chiffres de 2016 sur le taux de pauvreté. Donc, le taux de pauvreté est de l'ordre de 15%. On est à peu près au niveau national en ce qui concerne la métropole toulousaine. Donc, c'est pour ça que en mars 2019, nous avons souhaité signer un plan pour 3 ans avec l'État de façon conjointe s'investir pour lutter justement contre la pauvreté. Nous avons donc contractualisé avec l'État et nous avons fixé des objectifs spécifiques qui sont au fond de 4 ordres pour justement faire en sorte de lutter contre la pauvreté. Les 4 objectifs mis en place sont en fait comment on arrive à parvenir à l'égalité dès le premier âge, dès les premiers pas. C'est-à-dire il faut éviter de rompre au fond avec la reproduction de la pauvreté et ça passe par effectivement un travail auprès des plus petits. Le deuxième volet est la mise en œuvre en fait de garanties des droits fondamentaux des enfants au quotidien. C'est également d'assurer un parcours de formation pour tous les jeunes et investir pour l'accompagnement de tous vers l'emploi. Donc, au fond, on a déployé des mesures qui sont très concrètes. Hein, c'est-à-dire, vous savez, la métropole a récupéré notamment la prévention spécialisée comme compétence. La prévention spécialisée, c'est quoi ? Ce sont en fait des éducateurs spécialisés qui sont là pour faire un travail de rue. Hein, c'est-à-dire, ils vont au contact des jeunes dans nos villes de façon à faire en sorte que ces jeunes ne restent pas en marge, au fond, de la société. On va les capter, on va les chercher avec, bien sûr, tout le savoir de l'éducateur spécialisé. Et on les amène vers un accompagnement spécifique de façon à ce qu'elles retrouvent des chemins de l'insertion, du travail, de l'emploi, du collège, parce que parfois c'est de la déscolarisation. Donc, notamment là, par ce plan pauvreté, on a augmenté nos éducateurs spécialisés de façon à pouvoir aller chercher les jeunes, chercher les personnes en difficulté. On a créé des maraudes mixtes, avec notamment le conseil départemental, puisque l'objectif c'est bien d'agir tous ensemble, toutes les institutions en commun, et non pas de façon verticale, mais il ne faut pas oublier l'objectif. L'objectif, c'est de servir les personnes, de servir le public et d'accompagner au mieux. Et pour ça, c'est comment la métropole, en lien avec les autres partenaires, la CAF, le département, tous les partenaires associatifs et autres, arrivent à agir en commun et de concert pour avoir un vrai maillage de façon à ce qu'il y ait un accompagnement qui soit utile pour les gens, utile et repéré.
Là, vous parlez donc de services vraiment typiquement métropolitains. C'est-à-dire, ces éducateurs spécialisés appartiennent à des services de la métropole. Ça, c'est nouveau ou vous avez étoffé en fait les services en question? Parce que je suppose qu'avec la crise sanitaire, les situations de précarité ont augmenté, les situations de pauvreté ont augmenté, les mères isolées, les mineurs isolés aussi. Je suppose que tout ça est en augmentation, même si on n'a pas de chiffres ici pour l'instant.
Oui, alors tout à fait. Donc la prévention spécialisée est une compétence que nous avons récupérée suite à la loi NOTRe. C'était une compétence donc, du conseil départemental jusqu'à il y a 2-3 ans, enfin un peu plus même. Et donc il y a 53 éducateurs à ce jour. Donc nous avons là très récemment augmenté les éducateurs de 13 éducateurs supplémentaires. Voilà, puisqu'effectivement, effectivement, l'objectif, c'est bien de se dire que, au fond, il faut aller chercher les personnes qui sont en difficulté. Hein. Très souvent, les personnes en difficulté, elles ne poussent pas les portes. On le sait bien.
Il faut les repérer.
Il faut les repérer, il faut aller les chercher. Il y a tout un savoir-faire et un savoir-être que maîtrisent les éducateurs spécialisés qui permettent d'aller entrer en relation avec des personnes qui, souvent, sont très éloignées, justement, de tout l'ensemble de nos dispositifs. Donc, c'est une vraie mission et un vrai travail d'approche, d'abord, pour ensuite faire en sorte, en fonction du profil de chacun des gens rencontrés, il y a une adaptation par la personne donc, qui est éducateur spécialisé pour pouvoir l'approcher et la ramener vers une progressivité qui, par la suite, bien sûr, a pour visée de l'inclure, bien évidemment, dans la société, par le travail, par le logement parfois. Mais toutes ces équipes et toutes ces maraudes, donc c'est vraiment une vision de volonté d'aller vers, vous voyez, qu'on déploie. C'est comment on va chercher les gens? Comment, une fois qu'on est allé les chercher, les agents connaissent parfaitement les dispositifs existants et font en sorte de les mettre en selle dans les dispositifs. Et pour ça, nous avons notamment créé des dispositifs type tapage. Alors, on est en lien avec les associations, hein, bien sûr, aussi, qui nous aident à mettre en œuvre. Hein. Mais c'est, par exemple, le travail à la journée. Donc, parfois, quand des personnes sont très éloignées de la société, très éloignées de l'emploi, très éloignées du système, eh bien, il y a deux choses qu'il faut arriver à faire. Je vais parler du logement après, mais il y a les mettre en logement quand elles n'ont pas de logement et les remettre dans une sociabilisation de façon progressive. Et parfois, le travail à la journée permet de ne pas demander grand-chose, tout au moins une assiduité à un moment précis, avec une seule journée et un paiement à la journée. Donc, progressivement, on remet le pied à l'étrier. Mais il y a aussi un autre dispositif, c'est des chantiers. On mène beaucoup de chantiers d'insertion et notamment des chantiers dans la métropole, c'est-à-dire dans nos propres services, dans les espaces verts, dans divers services repérés, qui d'ailleurs jouent le jeu avec nous, parce que c'est aussi des équipes de nos services qui s'investissent pour arriver à accueillir, parce qu'accueillir quelqu'un qui est éloigné de l'emploi, c'est parfois aussi savoir s'adapter à la personne. Et on crée des chantiers, donc des chantiers spécifiques où elles vont aider au montage des décorations de Noël, elles vont aider à l'entretien d'un espace vert, elles vont... Voilà. Donc, c'est-à-dire que la métropole a au fond une double entrée, c'est-à-dire l'entrée d'une volonté de politique inclusive, mais l'entrée de s'appliquer à elle-même une vraie vision inclusive en faisant porter par la métropole elle-même l'intégration de ces publics.
Donc les aides et les approches sont personnalisées aussi, si je comprends bien. On parlait de la difficulté de repérer les gens, de les approcher. Donc vous avez des éducateurs spécialisés de vos services, mais je suppose que vous travaillez aussi, vous les avez cités, avec des associations contre le mal logement, avec le Secours populaire, le Secours catholique, et puis aussi sans doute avec la CAF et les autres communes de la métropole, les services sociaux des communes de la métropole.
Oui, tout à fait. Alors, si vous voulez, le champ est assez large. C'est-à-dire, il y a des compétences propres métropolitaines, telles celles qu'on vient de décrire, où nous avons récupéré la compétence, comme la prévention spécialisée, le fonds d'aide au logement. Je pense que nous en parlerons par la suite.
Voilà. Après, oui.
Certaines compétences sont propres à la métropole. Mais au-delà de ça, c'est comment faire une métropole avec l'ensemble des communes. Et c'est une vraie vision de construction ensemble. C'est-à-dire que les communes, effectivement, la compétence sociale. Donc, les communes déploient pour leur public des dispositifs dédiés et spécifiques. Et c'est comment la métropole arrive au fond à se servir de bonnes pratiques aussi communales, c'est-à-dire repère les bonnes pratiques communales, travaille avec les communes pour venir nourrir les politiques communales d'autres communes. Donc, c'est tout un travail de mise en commun, si on peut le dire comme ça, avec des communes qui ont des avancées déjà depuis bien longtemps parce que elles ont été confrontées, elles avaient plus de public, plus de personnes donc, et confrontées à certaines difficultés que d'autres n'avaient pas nécessairement connu ou n'avait pas connu à grande échelle. Et donc, c'est tout ce travail de mise en commun pour arriver à être utile à d'autres en donnant des bonnes pratiques. Au-delà de ça, après, il y a les dispositifs spécifiques où, par exemple, la métropole va financer des paniers alimentaires, par exemple, ou va financer des permis de conduire pour les jeunes des communes, vous voyez, dans le cadre de dispositifs dédiés. Donc, c'est à la fois ce travail de bonnes pratiques à diffuser à l'ensemble des communes, de cohérence métropolitaine à avoir sur un territoire donné parce que nous vivons dans des bassins de vie. Très souvent, les publics ne s'arrêtent pas aux frontières de telle ou telle commune, mais c'est bien avoir des visions structurantes pour la métropole, avec des visions d'ensemble et partagées. Vous voyez les idées majeures.
On va présenter les différents dispositifs qui ont été créés, qui sont administrés et financés par Toulouse Métropole dans le domaine social et celui de l'inclusion. On va voir comment ils fonctionnent et comment ils sont organisés. Alors, il y a quelque chose de très important qui s'appelle le PLIE, le P-L-I-E. Alors, dites-nous ce qui se cache derrière cet acronyme et puis les services qu'ils proposent.
Alors, le PLIE, le plan local, donc d'insertion par l'emploi, c'est un dispositif en fait très spécifique qui a pour visée un travail dans la dentelle, si je peux le dire comme ça. Donc, c'est un accompagnement en fait des publics en difficulté d'emploi depuis en moyenne plus de 24 mois en général. Donc, on travaille bien sûr en lien avec Pôle emploi. On n'est pas sur...
c'est tout pareil.
On ne travaille pas dans notre coin, vraiment. Donc, le but est d'accompagner avec des référents particulier, donc la personne a son référent et travaille à la fois la levée de freins, c'est-à-dire parfois les freins c'est quoi ? C'est qu'on n'a pas confiance en soi, c'est que on n'a pas de permis de conduire, c'est qu'on n'a pas de moyens de garde pour faire garder les enfants. Donc c'est toutes ces choses connexes qui au fond sont des freins pour permettre d'accéder facilement à l'emploi. Donc on lève ces freins grâce au PLI, donc on a des dispositifs spécifiques pour faire garder les enfants, on a s'il manque une petite formation, on va faire une petite formation dédiée pour donner une compétence en plus. Donc c'est tout le volet de j'accompagne la personne et en parallèle, c'est tout le volet entreprise. C'est-à-dire, on a tissé des liens très étroits avec de très nombreuses entreprises et on met en adéquation et on met en lien les entreprises qui ont un besoin, qui parfois vont formaliser un besoin par « je veux une personne avec tel niveau, tel diplôme », mais nous, on connaît bien cette entreprise et on sait de quoi elle a besoin et que peut-être s'arrêter au diplôme parfois n'est pas nécessairement suffisant et qu'on a la personne adéquate et qui correspond au poste. Et on met en relation. C'est vraiment de façon très schématique, mais ça permet de comprendre un peu la vision de dentelle qui est recherchée. Et toujours pareil, donc on est bien au service à la fois de la personne, mais à la fois de l'entreprise, c'est-à-dire comment on fait matcher.
En prenant en compte les réalités du terrain, si je puis dire.
En prenant en compte les réalités du terrain, alors justement, pour faire face à la crise actuelle, on a créé un SAS spécifique, et notamment dans le cadre aussi du plan pauvreté, on a en fait un SAS préalable qui nous permet d'avoir un accompagnement encore plus spécifique pour les gens qui sont très, très éloignés de l'emploi, voilà. Ou parfois, la langue fait frontière, ou il y a un problème de logement, voilà. En quelques mots, hein, parce que vraiment...
Et on
a augmenté
dans
le nombre de référents, voilà, puisqu'on a...
Là aussi, vous avez augmenté la force de frappe, si je puis dire.
10 référents supplémentaires pour accompagner au mieux.
Alors, il y a un autre dispositif, c'est ce qui s'appelle l'accompagnement des familles. Qu'est-ce que c'est que l'accompagnement des familles? Qu'est-ce que vous proposez aux familles en question pour les accompagner?
L'accompagnement des familles, la métropole en fait soutient la parentalité au sens large, bon, pas seule, hein, avec d'autres acteurs, bien évidemment, la CAF, bon, on adhère au schéma départemental des familles, bon. Mais on a développé notamment des espaces rencontres parents-enfants, vous voyez, on aide au développement de ces espaces. On soutient aussi l'accueil des familles précaires, on a créé un lieu d'accueil pour les parents précaires. En fait, on crée un accompagnement quand les parents se sentent démunis. Bon, ben, face à même des jeunes qui grandissent, hein, enfin, au-delà de... Ça peut être à tout âge hein, qu'on peut être démunis en tant que parent. Donc, on essaie de déployer et d'accompagner et de financer des associations qui permettent justement d'accompagner les familles. On permet aussi et on finance la réussite éducative. Donc la réussite éducative, c'est qu'au niveau scolaire, on repère des difficultés qui ne sont pas forcément que scolaires, hein, mais qui peuvent être diverses, des difficultés. Il y a un accompagnement spécifique de réussite éducative qui est mis en œuvre dans les communes essentiellement politiques de la ville, hein, puisque ce dispositif est un dispositif spécifique, la réussite éducative, mais qui permet un accompagnement soutenu des enfants avec des référents aussi spécifiques, une vraie politique dédiée. Mais au-delà de ça, puisque les difficultés ne s'arrêtent pas au quartier politique de la ville, même si on sait que dans ces quartiers-là, les difficultés sont grandes, il y a aussi des difficultés partout et le besoin d'aide est général dans la métropole. Et donc, il existe des dispositifs dans les communes de veille éducative aussi pour permettre d'aider justement les enfants dans toutes les communes.
Il y a deux autres dispositifs, la prévention. Il y en a un qui s'appelle prévention jeunesse et il y en a un qui s'appelle prévention de la délinquance et des conduites à risque. Alors, prévention jeunesse.
Oui, donc sur la prévention jeunesse, alors plusieurs actions dans la prévention jeunesse parce que ça englobe beaucoup de choses. Ça peut être la prévention pour éviter le décrochage scolaire. Ça peut être la prévention parce qu'on a des jeunes qui sont justement, comme nous l'indiquions tout à l'heure, en marge de la société et pour lesquels, effectivement, nous avons des dispositifs spécifiques, notamment le travail à la journée dont je vous parlais, des chantiers d'insertion. Mais la prévention jeunesse, c'est aussi tout ce qu'on évoquait tout à l'heure sur le soutien de la parentalité. Comment on fait en sorte d'être au plus proche des jeunes pour éviter ou pour faire en sorte qu'ils grandissent du mieux possible. Sur la question de la prévention de la délinquance, nous avons beaucoup travaillé. Nous travaillons dans le cadre du Conseil métropolitain de prévention de la délinquance sur notamment des dispositifs en lien avec la prévention spécialisée, la prévention et la lutte contre les conduites addictives, la lutte contre les violences aussi au sens large, en quelques mots, parce que vraiment le sujet est extrêmement large.
Ça me permet de parler, puisque vous évoquez les violences faites aux femmes, parce que ça aussi c'est un des dispositifs qui a été mis en place au niveau métropolitain. Quel rôle joue la Toulouse Métropole dans ce domaine? Est-ce que c'est un rôle de relais pour alerter les services sociaux ou est-ce que vous travaillez directement avec la police et la justice?
Alors, on travaille directement avec, bien sûr, les services de la police, de la justice, et notamment dans le cadre du Conseil métropolitain de la prévention de la délinquance, on a un groupe de travail sur les violences. Et on a, en fait, créé un guide métropolitain, notamment, à destination de l'ensemble des communes et des CCAS, de façon à ce que les communes sachent quoi faire, vers qui se tourner et comment. Notamment, on l'a déjà commencé à la ville de Toulouse et à la métropole, de former l'ensemble des agents et notamment les agents d'accueil, de façon à ce qu'il y ait une sensibilisation au repérage des violences. Et au-delà du repérage, c'est qu'est-ce qu'on fait pour être aidant? Donc vraiment, qu'il y ait une vraie formation dédiée et spécifique pour pouvoir être agissant. Voilà, parce que la lutte contre les violences, c'est quoi? C'est à la fois dénoncer, montrer que l'on dénonce, dénoncer ensemble. Donc ça passe par effectivement les campagnes d'affichage, les campagnes
de sensibilisation.
Voilà, hein. Exactement. Au-delà de ça, donc la formation des agents, qui est quelque chose de fondamental. Il y a tout le travail qui est fait en lien avec Tisséo, où vous avez vu toutes les campagnes de lutte contre le harcèlement sexiste.
Dans le métro, dans les transports
dans
en commun.
Dans le métro, donc ça, on l'a monté ensemble avec Tisséo. Et Tisséo forme ses agents, fait des interventions dans les collèges. Enfin, il y a vraiment une sensibilisation très forte et dès le plus jeune âge qui est mise en œuvre. Pendant le confinement notamment, on a eu vraiment des mesures dédiées et spécifiques. Vous savez, le gouvernement avait annoncé que les femmes pouvaient se rendre dans les pharmacies. Et donc là, très très vite, on a contacté l'ensemble des associations. On a mis en œuvre en fait une fiche technique pour que tous les pharmaciens aient des éléments très concrets à donner à disposition en fait des personnes qui se rendaient dans les pharmacies, qui appelaient, comment, qui voir. On a notamment décidé avec le procureur, le préfet, pour que l'ordonnance de protection, vous savez, qui permet de faire en sorte qu'une décision de justice soit prise très très vite pour que la femme puisse rester dans le logement et que ce soit le conjoint violent qui soit évincé du logement. Donc là, on a mis en œuvre très vite donc des logements pour les auteurs de façon à ce que, eh bien, au vu du confinement quand même, hein, bon, c'est des situations compliquées, il fallait que personne ne se retrouve quand même à la rue. Et pour faciliter l'application de l'ordonnance de protection et la non-culpabilité aussi des femmes à rester dans le logement avec les enfants très souvent, l'auteur était lui hébergé et la femme pouvait, grâce à l'ordonnance de protection, rester avec une décision de justice dans le logement.
Alors, on va parler maintenant de dernier dispositif que nous n'avons pas encore évoqué, c'est le fonds de solidarité logement. Comment ça fonctionne, ça ?
Alors, le fonds de solidarité logement est destiné à venir en aide à toute personne ou famille qui éprouve en fait à des moments donnés des difficultés particulières pour accéder ou se maintenir dans un logement décent. Ça peut être une aide au loyer, une aide à l'entrée dans un premier logement, une aide à un paiement de facture. Donc, le but, c'est d'éviter soit de tomber dans une difficulté, soit de faire face à une difficulté pour ne pas tomber dans des difficultés plus grandes. Mais la spécificité, c'est aussi qu'il y a un accompagnement social quand il y a une mise en œuvre de ces aides, hein, puisque l'objectif, c'est aussi de diagnostiquer pourquoi la difficulté.
Agir à la source de la
difficulté. Voilà, exactement, voilà.
Une chose assez nouvelle, je pense que maintenant, vous travaillez au niveau de la métropole avec les propriétaires de locaux inoccupés, justement, pour faire face au mal logement. Alors ça, c'est très récent.
Alors, tout à fait. Donc, depuis mai 2018, en fait, Toulouse a été retenue comme territoire de mise en œuvre accélérée du logement d'abord, vous savez, dans le cadre du plan quinquennal national, qui vise à faire accéder au logement des personnes sans domicile et à les y maintenir par de l'accompagnement social. Donc, le GIP, en fait, là, GIP va être créé et sera l'outil de déploiement du logement d'abord.
Expliquez ce que c'est, le
GIP. Un groupement d'intérêt public. En fait, c'est juste une structure qui permet de structurer l'action et qui va être l'outil en fait de déploiement du logement d'abord sur les 37 communes de la métropole. L'idée, c'est aussi de créer donc une agence immobilière à vocation sociale qui sera portée par ce GIP. L'objectif étant d'être un outil en fait de captation et de gestion du logement dans le parc privé, si vous voulez. Donc là, le fin mot et en résumé, c'est de dire l'idée est de passer du système des places d'hébergement d'urgence en conférant un logement et en attribuant un logement à des personnes qui sont en difficulté, en les accompagnant, bien sûr, hein, un accompagnement qui devra être très fin et très fort. Hein, on le sait que quand on a des personnes sans logement, souvent l'accompagnement doit être extrêmement fort. Donc, il y a cette idée hein, de faire en sorte que le logement soit la clé de l'amélioration et de la prise en charge de la personne pour qu'elle puisse trouver un emploi et qu'elle puisse s'insérer. Mais en parallèle, c'est donner confiance aux propriétaires pour que les propriétaires puissent considérer que plutôt que d'avoir du logement vacant, eh bien, il est intéressant aussi pour eux, d'abord par esprit de solidarité, mais aussi parce qu'ils y trouveront des avantages, puisqu'il y aura une garantie des loyers, il y aura des avantages fiscaux importants. Donc, c'est comment on arrive, pareil, hein, en mettre en lien à la fois les personnes qui ont des logements disponibles à mettre à disposition et à la fois ben, les mettre à disposition des personnes qui en ont besoin. On peut faire de la solidarité, mais en faisant en sorte que eh bien, tout le monde puisse aussi trouver un intérêt à agir en commun.
Et puis le fait que la métropole se porte caution est même une garantie très importante pour les propriétaires des logements inoccupés en question. Nous voici donc arrivés au terme de cette émission. Merci infiniment Julie Escudier d'en avoir été l'invitée et de nous avoir présenté ce que fait Toulouse Métropole pour la cohésion sociale et l'inclusion sur son territoire. Je pense qu'il était important d'évoquer ces sujets délicats et douloureux. J'espère que cette émission aura permis à nos auditeurs d'y voir plus clair et d'avoir une meilleure connaissance des dispositifs existants dans la métropole pour venir en aide à ceux qui en ont le plus besoin. Soyons attentifs à toutes les situations d'exclusion sociale que l'on peut rencontrer autour de nous et agissons dans la mesure de nos moyens. Je vous invite à consulter le site de Toulouse Métropole pour en savoir plus en vous connectant à l'adresse www.metropole.toulouse.fr. Vous y trouverez le détail des dispositifs que nous avons évoqués lors de ce numéro. Ce numéro de Métropole et vous était animé par Éric Dupri à la technique Christophe Aubry. Rendez-vous la semaine prochaine à la même heure et d'ici là, n'oubliez pas, métropolez-vous bien.
Métropole et vous. Métropole et vous.
Métropole et vous, une émission en partenariat avec Toulouse Métropole.